France Culture.
Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire.
Biographie illipienne.
1936.
Ilip naît à Bordeaux d'un père mongol et d'une mère provinciale.
1937.
Il marche, mais ne parle pas.
1938.
Ilip ne parle toujours pas. Il parvient cependant par geste à provoquer entre ses parents un malentendu qui dure encore.
1939.
La vue d'une Rolls-Royce met fin à son mutisme. Il parle enfin, mais peu.
Voici un homme. Bordeaux, 9 janvier 1936. Bordeaux, 8 mars 2003. À qui l'adjectif « truculent » s'applique parfaitement. Philippe Labarthe était peintre. Ilip, lui, était écrivain. Et c'était la même personne. Un grand bourgeois, ancienne éducation, latin grec, baise-main, bon mot, copain de Prévert, Max Ernst et Ionesco. Je précise que je le préfère à ces trois-là réunis. Lecteur de Cioran, buveur, fumeur, voyageur, misanthrope, très grand séducteur, inconnu, insaisissable, et tout simplement l'un des maîtres français de cette pensée en archipel qu'on appelle l'aphorisme. C'est rare les peintres écrivains. En même temps, heureusement qu'il n'y en a pas à tous les coins de rue. Bitalentueux, mais aussi bipolaire, Ilip s'émerveillait d'un rien.
Quoi de plus naturel qu'un tremblement de terre? Pourtant, à chaque fois, tout le monde paraît surpris.
Ilip n'était pas qu'insouciant, il était aussi un grand inquiet. Et à l'écouter, il peut réveiller des paniques enfouies.
J'ai peur parfois que mon trou du cul ne se cicatrise.
Peintre, écrivain ou docker, Ilip était injustement méconnu et s'en foutait bien. Acharné au grand œuvre, ni dans l'un ni dans l'autre de ses arts, il était pourtant bluffant dans les deux. Quand on vous le présentait, qu'il vous tendait sa main à la paume douce de grands semi-oisifs, on comprenait vite ne pas avoir affaire à un fou de travail ni à un affamé de réputation.
Chaque jour qui passe est un jour que je regarde passer.
Le succès et lui faisaient chambre à part et il n'en dormait que mieux.
Je n'aimerais pas avoir les couilles en or.
Et comment lui donner tort sur ce point? Voici son autodescription qui, à mon sens, le révélait au monde dans toute sa vérité.
Né au siècle dernier à Bordeaux, grand, belle et bien proportionné, passe beaucoup de temps dans les vignes, en quête de jeunes vendangeuses, à catéchiser. Regagne chaque soir son bocal pour y prendre des notes et coloriser ses images d'Épinal.
Ah, rien de mystérieux a priori, hein. On vit, on meurt, on grandit, mais assez peu.
L'alcool conserve en moi l'embryon que je suis resté.
Lui-même, qui adorait imaginer son propre cadavre, suivi par des dizaines de veuves, s'était composé cette épitaphe.
Né un lundi, mort un mardi, enterré un mercredi.
La mort, événement essentiellement comique à ses yeux, l'aura inspiré continuement.
Un soldat mort ne devrait pas prendre l'air étonné.
Comme on l'a dit de lui, son art était celui de la sarbacane, du goutte-à-goutte assassin.
Tant qu'à inventer un dieu, on aurait pu le faire plus sympathique.
Écoutez donc cet aphorisme, composé avec les éléments les plus simples de la langue française.
Je ne me dis pas tout.
Pensée concise, en aphorismes minimaux, de préférence une syllabe par mot.
La vie n'a que deux bouts.
Y a-t-il besoin d'en dire plus? Sans prévenir, et contre toute attente, en 2001, le voilà qui publie « Texte sans parole », puis en 2003, il éructe « Sexe sans parole », avant de mourir, un jour de pluie. Chacune de ses pensées, qui s'annoncent comme oisives et désinvoltes, nous délivre bizarrement, à chaque fois, de quelque chose. La plupart du temps, d'une interrogation inutile, qu'on aura traîné toute une vie. » on est terrassé par son...
Pourquoi vouloir rendre heureux des gens déjà contents de ne pas l'être ?
Son éditeur, fasciné par son insuccès de librairie et la précision de ses flèches, a parlé de perles d'eau glaciale qui s'obstinent à sinuer le long de votre dos et donne comme exemple...
Un gynécologue est un dentiste qui a peur d'être mordu.
Ce galop littéraire, en deux livres, jusqu'au tombeau, rappelle ce qu'il disait aussi du sexe.
Le préservatif s'enlève à la fin pour saluer.
Ses opus testaments, publiés aux dilettantes, précèdent de peu son décès, lequel semblait quand même lui déplaire.
Les mouches ne meurent pas toutes comme des mouches. Il y en a des courageuses.
Ce gros fumeur a refusé de soigner un cancer du poumon, qui d'ailleurs n'était pas un cancer du fumeur. Quelques mois avant, il avait écrit
« Un jour, il y aura des cimetières non-fumeurs. »
Eh bien, excusez-moi de vous le dire tout franc, c'est tragique.
Être désespéré, mais avec élégance.
Je l'ai rencontré à ce moment-là, et on a beaucoup ri. Mais enfin, c'est lui qui a bu. Et pourtant, c'est ma mémoire qui est restée floue. Alors, j'ai enquêté, j'ai parlé à ceux que j'ai pu retrouver, des femmes surtout. Ah, ces femmes, que des grandes aristocrates étrangères.
Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate, fais-moi la bise comme un aristocrate.
Une princesse égyptienne qui dirigeait une grande maison de mode, puis une princesse mais japonaise, Masako Sato, grande artiste avec qui il aura une fille, Prune, la première à s'appeler ainsi de l'histoire, idée de Prévert. Et puis une comtesse anglo-américaine, Alexandra, grande prêtresse de la décoration d'intérieur, et enfin son premier amour, Annie, avec laquelle il finira sa vie là où il l'avait commencé, à Bordeaux. Sans doute, pour la séduire de nouveau, aura-t-il lancé son charmeur
« J'ai encore l'heure que vous m'aviez donnée ».
Entre-temps, il aura habité à Paris et à New York, peut-être au Japon, qui sait encore où. Autant dire que les femmes l'ont beaucoup aidé. Car comme me l'a confié l'une d'elles, il aurait pu séduire une pierre. En 1962, Illip avait obtenu le grand prix de l'humour noir.
1961.
Pour fuir la popularité, il est contraint de se masquer, même chez lui.
1962.
Illip engage un sosie et se suicide. Le sosie de Illip continue son œuvre.
Et puis Jean-Jacques Pauvert, vous savez, le sulfureux éditeur subjugué par ce peintre-écrivain, avait titré un numéro resté fameux de sa revue Bizarre, spécial Illip, sous-titré
« Écrivez plus grand, elle est sourde ».
Ça, c'est la période Monty Python du personnage. Là, il est au sommet de sa gloire. Et cette période sera suivie d'une bonne quarantaine d'années de disparition. Ah, les femmes l'occupaient, elles s'occupaient de lui. Lui, il faisait rire les invités à New York, maudissait l'art contemporain, vendait parfois un tableau quand il trouvait un marchand un peu crédule et surprenait la Jet Society par une philosophie noire servie avec le Martini Dry. Si j'avais le temps, je vous dirais quel bar il aimait dans chaque ville. Je vous décrirais chacun de ses enfants, tous passionnants, tous artistes. Car cette enquête sur un honnête homme au-dessus de la mêlée, qui estimait avoir raté sa vie d'un bon maître, a réveillé en moi ce courage devant l'absurdité de la vie que j'admirais jeune chez Cioran et qu'on trouve aussi dans les personnages qui peuplent le Talmud. Et voici comment il le résumait.
Si vous avez peur de vivre, il faut cesser de naître.
Ilip n'aura au fond jamais fait rien d'autre que de suivre son propre cercueil en marmonnant un De Profundis absurde et tellement vrai.
C'est rigolo. Si je vais chez des amis qui ne sont pas de mon avis, je pleure, j'éclate en sanglots. C'est rigolo. Voyant qu'ils prennent pitié, je casse un cendrier et je grimpe au rideau criant c'est rigolo. Je prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrie sauf qu'il peut. Pour terminer la soirée, je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito. C'est rigolo. J'avais bien préparé un discours. Fatiguée, je me suis endormie. J'ai rêvé tout ceci. Ce que je voudrais dire, je préfère vous l'offrir. En chantant cet air-là qui m'a plus serré pour pourquoi. Cette nouvelle année qui vient de recommencer, je voudrais vous dire un seul mot. C'est rigolo. 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 C'est rigolo.